enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous avons commencé l'école de la prière par le thème « La puissance de la prière ». Il est très important de ne rater aucun de ces sujets-là, aucune de ces prières. Pendant trop longtemps, l'ennemi nous a privés et nous a volé nos bénédictions parce que quelque part, nous ne savons pas comment prier. C'est un constat dans l'Église, c'est un constat que j'ai fait depuis que je suis arrivé à Paris, ministériellement parlant. Le Seigneur m'a interpellé sur le besoin de se susciter véritablement une armée d'hommes et de femmes qui savent ce que c'est que la prière. Vous savez, devenir un homme de prière ou une femme de prière, et surtout un homme dont la prière a une efficacité, c'est comme un entraînement. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça du jour au lendemain et puis courir contre le champion du monde du 100 mètres. Est-ce que vous me suivez? Vous ne pouvez pas faire votre meilleure prestation dès le premier jour où vous vous essayez à la prière ou lorsque vous manifestez votre foi. Avant d'avoir une foi capable de déplacer une montagne, il faut déjà au moins avoir une foi capable de déplacer une colline. Amen. Et avant la colline, vous voyez, donc il y a comme une progression, c'est comme un muscle. La foi est comme un muscle que vous développez, qui fait que vous êtes capable de plus en plus de faire de grandes choses. La prière également, c'est la même chose. Dans un premier temps, il est important de prendre un sujet de prière, de le noter, de prier par rapport à ça et de voir le résultat qu'on a obtenu. Amen. Ça prendra peut-être pour la première fois un mois ou deux mois. Mais la deuxième fois que vous le ferez, vous allez sentir, voir une nette amélioration. Ça prendra peut-être moins de temps. Et vous allez savoir exactement comment orienter votre prière pour obtenir des résultats. Amen. La prière peut être approchée de manière scientifique. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que les gens qui ont l'expérience de la prière ont la capacité de pouvoir tenir des sujets de prière et de manière plus rapide, de manière plus efficace, de manière plus puissante. Le Seigneur, de toutes les façons, en nous parlant également de la prière, a mentionné plusieurs niveaux de prière. On peut le voir dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7, verset 7. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa Bible dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, verset 7? Matthieu chapitre 7, verset 7. La Bible nous dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et ici, le titre donc de ce passage-là, c'est « Encouragement à la prière ». Le Seigneur ici donc mentionne plusieurs niveaux de prière. Il mentionne le niveau de demander, et l'on vous donne, de chercher et vous trouver. Donc chercher veut dire une approche scientifique. Pas forcément scientifique, mais une approche basée sur des expériences et une relation personnelle que vous avez. Comme je l'ai dit, il est bon, lorsque vous priez pour quelque chose, d'établir votre sujet, vos objectifs, et de prier par rapport à ça, et de voir comment est-ce que les choses évoluent. Ce n'est pas mauvais de faire un bilan sur sa vie de prière. Bon, ce mois-ci, j'ai prié vraiment pour que le Seigneur touche la vie de la sœur telle. Comment ça s'est passé? À quel moment elle m'a... Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Il faut que vous voyez la prière pas comme quelque chose d'aléatoire, mais quelque chose qui est véritablement efficace. C'est très important. Puisque la Bible a dit, la prière du juste, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Donc vous devez sentir, lorsque vous priez, vous devez avoir des retombées, des répercussions de votre prière. Et le Seigneur donc ici mentionne plusieurs niveaux de prière. Il dit demander, donc chercher et frapper. Donc il y a aussi dans la prière la capacité de frapper. Frapper. Et lorsqu'on frappe, pourquoi? On frappe quand la porte est fermée. Est-ce que vous me suivez? Quand la porte est fermée, c'est là que vous frappez. Généralement, quand la porte est ouverte, vous vous annoncez. Mais quand la porte est fermée, il est nécessaire pour vous de frapper. Donc si le Seigneur dans les différentes dimensions donc de prière, nous dit demander. Donc il y a l'étape du demander, l'étape du chercher et dit l'étape du frapper. Ça veut dire qu'il peut arriver un moment dans notre vie où nous allons nous heurter à une porte fermée. Alléluia. Et à ce moment-là, il faut entrer dans les dimensions de prière qui nous permettent de frapper. Dans les différentes sortes de prières que nous allons étudier, il y en a deux qui sont essentiellement des prières, je dirais, de frappe. Voilà. Donc vous avez la prière du combat et vous avez la prière d'enfantement, qui sont des prières de frappe. Mais c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Matthieu 7, 7, frappez et l'on vous ouvrira. Donc la porte est fermée, quelle que soit cette porte-là. Quelle que soit la porte, si c'est une porte par laquelle vous savez que vous devez entrer dans une dimension, vous devez expérimenter un miracle, vous devez toucher quelque chose que vous n'avez jamais touché auparavant, c'est que la porte est fermée, il est important pour vous de frapper. La prière donc peut ouvrir des portes. De toutes les façons, c'est une partie de notre héritage. Si vous vous rappelez bien, dans Galates chapitre 3, verset 13, la Bible dit que le Seigneur veut que nous recevions les bénédictions d'Abraham. Amen. Et dans les bénédictions d'Abraham, regardez, il y a une bénédiction qui est très intéressante dans Genèse chapitre 22, verset 17. Donc il faut que tu réclames toutes les bénédictions d'Abraham, c'est ton partage. Dans Genèse 22, verset 17, la Bible dit: je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Dis, je possède la porte de mes ennemis. Je possède la porte de mes ennemis. Au nom de Jésus. Tu sais ce que ça veut dire? Quand tu possèdes la porte de ton ennemi, ça veut dire que ton ennemi ne peut sortir que quand tu l'autorises à sortir. Alléluia. Ça veut dire que ton ennemi ne peut se déplacer que quand tu l'autorises à se déplacer. Parce que celui qui contrôle la porte, en fait, contrôle la maison. Est-ce que vous me suivez? Donc, posséder la porte de son ennemi, ça veut dire que tu exerces une autorité sur tout ce qui peut effectivement t'environner. Et c'est un héritage que Dieu nous a donné de posséder la porte de nos ennemis. Alléluia. Lorsque même vous rentrez chez vous et que pour une raison ou une autre, c'est arrivé à plusieurs d'entre nous, vous perdez la clé ou bien vous avez un problème, vous ne savez pas où vous avez mis la clé, vous ne pouvez pas entrer dans votre maison. Quand bien même c'est votre maison, c'est vous qui l'avez achetée. C'est vous qui avez acheté tout ce qui se trouve dans la maison. Vous avez passé des moments exceptionnels dans cette maison-là. Vous aimez votre maison, mais c'est votre maison à vous. Mais parce que vous n'avez pas la clé en ce moment, vous ne pouvez pas y entrer. Vous ne pouvez pas y entrer. Et donc, quand la Bible parle de porte, et quand la Bible parle de posséder, posséder veut dire contrôler, veut dire disposer. Et la porte, ce sont les ouvertures, les opportunités. Généralement, derrière une porte se trouvent des choses qu'on aimerait. Par exemple, vous avez perdu votre clé, vous ne pouvez pas rentrer. Vous aimeriez vous asseoir sur votre fauteuil et regarder votre télévision, mais vous ne pouvez pas. Vous aimeriez vous faire une bonne tasse de tisane et ensuite aller prendre une bonne douche, mais vous ne pouvez pas. Toutes ces choses se trouvent derrière la porte. Et celui qui contrôle la porte contrôle aussi ce qui se trouve à l'intérieur, parce qu'il peut vous fermer l'accès à toutes ces choses. Amen. Donc si le Seigneur nous dit frappez et l'on vous ouvrira, ça veut dire qu'à certains moments, il est important lorsque nous prions et lorsque nous avons une vie de prière de savoir comment frapper afin que les portes puissent s'ouvrir et que nous puissions avoir accès à des choses qui nous appartiennent. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des bénédictions que tu as. Il y a des choses que Dieu a mis de côté pour toi. Il y a des choses que Jésus a obtenues à la croix pour toi. Mais il faut que tu puisses en profiter. Il faut que tu puisses en jouir. Il faut que ce qu'il a accompli à la croix puisse avoir effectivement des répercussions sur ta vie. Mais si tu vois que jusqu'à présent, depuis ta conversion, les choses ne bougent pas, les choses ne changent pas, ça veut dire que tu n'as pas encore frappé. Peut-être que tu as demandé, tu n'as pas encore trouvé. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Alléluia. Il faut entrer maintenant dans la dimension du frapper pour que la porte s'ouvre. Dis à ton voisin, il faut frapper. Voilà. Il y a un frère qui a dit, il faut frapper très fort. Il faut frapper, mon frère. Alléluia. Il faut frapper. Vous savez, nous combattons parce que nous avons des ennemis. Il y a des esprits qui s'opposent à notre santé, à notre prospérité, à nos bénédictions. Ce sont des choses auxquelles nous avons droit. Nous devons pouvoir entrer, nous devons pouvoir expérimenter ces choses parce que ce sont des choses qui appartiennent au royaume de Dieu et à ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Maintenant, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Pour pouvoir t'empêcher de toucher ces choses-là, de pouvoir expérimenter ces choses, il se tient à la porte et il fait tout pour t'empêcher d'entrer. Le Seigneur le sait. Et c'est pour ça qu'il a dit à son église, je te donne les clés du royaume. Amen. S'il n'y avait pas de porte, il n'allait pas nous donner de clés. Est-ce que vous me suivez? On peut le lire, c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 18. J'aimerais qu'on lise. Même si on connaît déjà le passage, c'est bon de lire et de relire. Parce que la parole de Dieu nous enseigne, elle nous éclaire. Matthieu chapitre 16, verset 18 à 19. Il dit donc, au verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et il donne cette clé-là à qui? À son église. Il y a eu des interprétations selon lesquelles c'était remis à Pierre, Pierre étant le premier pape, ce genre de choses. Ce n'est pas vrai, Pierre n'a jamais été pape. Voilà. Le problème, c'est qu'on nous vole des bénédictions par ce genre de choses qui nous empêchent effectivement de comprendre que nous avons aussi l'autorité. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il n'y a que le pape qui détient les clés du royaume. Ce n'est pas vrai. Tu as les clés du royaume de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a donné ces clés-là à son église, à ses enfants. Alléluia. Afin qu'ils puissent ouvrir les portes du royaume des cieux. Et qu'ils puissent recevoir les bénédictions du royaume des cieux. Et qu'il puisse être arrosé par les bénédictions du royaume des cieux. Amen. Donc tu as ces clés. Ce n'est pas l'héritage d'un homme qui est assis quelque part et tu dois forcément aller embrasser sa bague pour pouvoir recevoir des bénédictions. Ce n'est pas vrai. Tu as les clés du royaume. Et si tu as des clés, c'est parce qu'il y a des portes. Amen. La clé donc symbolise l'autorité. L'autorité de lier et de délier. C'est pour ça qu'il dit « Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. » Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc la clé symbolise l'autorité de lier et de délier, de fermer et d'ouvrir. Amen. Si tu peux fermer, si tu peux ouvrir, c'est que tu peux fermer. Suis-moi, hein, c'est très important. C'est très important de maîtriser ces aspects-là lorsque tu pries. Amen. Pour que ta prière soit efficace. Sache que tu peux lier, par exemple, l'esprit de pauvreté et délier la prospérité dans ta vie. Alléluia. Il suffit pas seulement de lier. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils apprennent à prier, par la grâce de Dieu, ils arrivent à comprendre qu'ils sont capables de lier. Mais il y en a très peu aussi qui savent qu'ils sont capables aussi de délier. Et que quand tu lis d'un côté, il faut délier de l'autre. Tu lis la maladie, mais tu délies la santé divine dans le nom puissant de Jésus. Amen. De telle sorte que tu ne te retrouves pas en fait dans une situation de neutralité, mais plutôt dans une situation de percée et d'avancée. Tu fermes et tu ouvres. Tu lis et tu délies. Alléluia. Tu bloques et tu débloques. Tu es capable, lorsque tu as la clé d'une porte, d'enfermer quelqu'un dans un endroit. Mais quelle que soit ta force, quel que soit ton âge, ton enfant de 6 ans peut t'enfermer dans une chambre. Tu as beau avoir toute l'énergie du monde pour le corriger ou bien même pour lui tirer les oreilles. Si tu es rentré dans une pièce et que la clé était sur la porte et qu'il vient, il tourne là, tu vas user de toute ta diplomatie pour lui dire, chérie, tourne la clé là, essaie de, tourne la clé, parce que c'est lui qui détermine maintenant si tu restes dedans ou bien si tu sors. Donc si tu lui dis, ouvre la porte tout de suite, sinon je vais te frapper, il peut décider de ne pas ouvrir. Parce que tu constitues un danger pour lui. Donc comprenez que la notion d'autorité n'a pas véritablement quelque chose à voir avec la puissance, mais plutôt avec les attributs que vous avez. Et donc détenir la clé veut dire que c'est vous qui décidez si on entre ou bien si on n'entre pas. Amen. Donc quand Dieu te dit, je te donne les clés du royaume, ça veut dire que c'est toi qui décides. si tu vas entrer dans les bénédictions du royaume ou si tu ne vas pas y entrer. Donc, il ne faut pas te plaindre envers quelqu'un parce que ce n'est pas la personne qui a la clé. Si par exemple, tu arrives devant une porte et que la porte est fermée, tu n'arrives pas à entrer alors que tu as la clé sur toi, ce serait idiot de t'en plaindre à quelqu'un. Oh, j'arrive pas à rentrer. Je peux pas rentrer chez moi. On dit, mais où est la clé? Non, j'ai la clé. La personne va se demander, mais si vous avez la clé sur vous, mais vous ne pouvez pas entrer. Et vous allez vous plaindre. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Tout ce qui, en fait, l'autorité veut dire que on a la possibilité de choisir et de décider. Amen. Peut-être que tu diras, non, ce n'est pas moi qui ai choisi de vivre cette situation. Ce n'est pas moi qui ai choisi que, par exemple, mon mari parte. Ce n'est pas moi qui ai choisi qu'il y ait la division dans ma famille. Ce n'est pas moi qui ai choisi de perdre mon emploi. Mais tu as l'autorité sur cette situation. Dieu te dit que tu as l'autorité. Alléluia. Et tu es capable de pouvoir affecter ces choses-là par ta prière. Donc, tu as les clés. Tu peux lier. Tu peux délier. Tu peux fermer. Tu peux ouvrir. Tu peux condamner. Tu peux décondamner. Tu peux bloquer. Tu peux débloquer. Amen. Les clés, donc, pour lier et délier sont utilisées dans le combat spirituel. Quand vous parlez de prière de combat, c'est une prière dans laquelle vous liez, vous déliez. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la responsabilité de combattre contre les forces occultes en leur résistant. Amen. Donc quand tu combats, tu as cette responsabilité-là de résister aux forces des ténèbres en leur résistant. Selon 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. 1 Pierre 5, 8 à 9. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Confiez-vous en l'Éternel, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Amen. Donc vous avez la responsabilité de résister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous recevez une attaque de la part de l'ennemi, ce n'est pas le moment de baisser les bras, de pleurer, de vous apitoyer sur vous, mais de plutôt chercher à savoir qui a les clés. Alléluia. De chercher à savoir qui a l'autorité. Parce que souvent, vous savez, quand l'ennemi attaque, il n'attaque jamais avec sa plus petite attaque. Vous êtes là comme ça et puis vous êtes surpris de voir que vous recevez mais une attaque virulente et violente. Souvent, c'est la plus grosse attaque du diable. Donc déjà, réconfortez-vous avec ça. Rien de pire ne peut m'arriver. Alléluia. Mais il ne faut pas vous affoler, parce que justement, c'est ce qu'il recherche. Que vous affoliez. Et quand quelqu'un est affolé, il peut même courir, se précipiter vers une porte. Même s'il a la clé sur lui, il ne pourra même pas utiliser la clé. Vous l'avez souvent vu. Quand quelqu'un est affolé même, c'est difficile pour lui de prendre la clé. Déjà, il prend la clé tombe, il la ramasse, il essaie de la ramasser. Finalement, il perd plus de temps à essayer de maîtriser cette clé-là qu'il a que de faire ce qu'il y a lieu de faire. C'est-à-dire ouvrir la porte, entrer, fermer la porte derrière soi et fermer. Même des gens qui sont affolés ont du mal à démarrer leur voiture. Ils veulent mettre la clé dans le contact, mais la clé, il tremble, il n'arrive pas à utiliser la clé. Donc, sachez une chose, c'est que la peur ne peut pas vous permettre d'exercer l'autorité. Est-ce que vous me suivez? Donc, quelle que soit la situation que vous vivez, quelle que soit la situation en face de laquelle vous êtes, il y a une chose à bannir, à proscrire, à vous interdire, c'est d'avoir peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Voilà. Si vous voulez développer le sujet, j'ai prêché un message qui s'intitule « Vaincre la peur » que je vous recommande aussi. Donc, il faut maîtriser la peur. Ne pas avoir peur face à une situation. Parce que dès que vous avez peur, vous perdez votre autorité. Et cela s'illustre par le fait que quelqu'un ait peur, il ne peut pas utiliser la clé. Il veut ouvrir, il veut démarrer sa voiture, il veut fuir. Généralement, pour monter dans une voiture, il vous suffit d'ouvrir la portière, vous montez. Fermé en moins de 30 secondes, 45 secondes, vous avez démarré, vous êtes parti. Mais quand quelqu'un a peur, déjà même pour chercher dans son sac, la soeur cherche dans son sac, elle met au moins une minute. Après ça, elle arrive à prendre la clé, elle va faire tomber la clé au moins trois fois. Ensuite, mais ça, l'ennemi a le temps, même en marchant tranquillement, il sait que vous avez peur, Il n'a même pas besoin de courir parce que votre peur va vous paralyser. Et la Bible dit dans Job chapitre 3 verset 25, Job a dit, ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Est-ce que vous me suivez? Donc la peur, c'est ce que l'ennemi veut créer lorsqu'il attaque pour la première fois. Ce qu'on appelle l'effroi. Paf, il vous attaque. Automatiquement, vous avez deux possibilités. Soit vous paniquez, soit vous gardez votre calme. Et quand tu gardes ton calme, tu te dis, qui a les clés dans cette situation? Alléluia. Qui a les clés? Qui a les clés? Amen. Donc, l'enfant de Dieu doit résister. Il doit chasser l'esprit. Marc chapitre 16, verset 17. Chasser en mon nom. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Marc chapitre 16, verset 17. Et en les liant. Matthieu 16, 19. En les liant. Matthieu 16, 19. Qui nous dit, voici je vous donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous délirez sera délire. Voilà. Donc nous avons l'autorité sur tout ce dont le Seigneur nous a racheté. Vous savez que Christ, en allant à la croix, il n'est pas allé simplement pour souffrir. Il est allé pour pouvoir servir de sacrifice. Ce qu'on appelle le sacrifice expiatoire, d'échange. Et donc, tout ce qu'il a souffert, c'est afin que nous ayons le contraire, l'opposé. Amen. Donc, légalement parlant, nous avons le droit de réclamer certaines choses. Amen. Et tout, donc, ce que le Seigneur, tout ce dont le Seigneur nous a racheté, nous avons l'autorité pour pouvoir les réclamer, pour pouvoir donc les délier dans notre vie ou les lier. Vous avez par exemple, donc nous avons l'autorité sur tous les démons. Regarde dans Luc chapitre 9, versets 1 à 2. Luc 9, Luc chapitre 9. Versets 1 à 2. Jésus ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur les démons avec la puissance de guérir les malades. Amen. Il leur donna force et pouvoir sur les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume et guérir tous les malades. Maintenant, regardez aussi au verset 10. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir. Ce terme pouvoir là peut être traduit par je vous ai donné aussi l'autorité. Alléluia. Pas forcément que vous avez la force, mais vous avez l'autorité. Quand vous dites quelque chose, cette chose doit s'accomplir. Alléluia. Donc soyez conscient que vous avez l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et quand il dit bien, quand il dit toute, il mesure bien l'importance de toute. Il faut souligner toute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une situation qui peut vous arriver sur laquelle vous n'avez pas d'autorité. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas une situation qui puisse vous arriver sur laquelle vous n'avez pas l'autorité. Nous avons donc l'autorité sur tout ce dont le Seigneur nous a racheté, sur les démons, sur les maladies et les oppressions. Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Vous connaissez ce passage-là? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Amen. Donc vous avez autorité sur les démons, sur les maladies, les oppressions, sur les malédictions. Galates chapitre 3 verset 13. Galates chapitre 3 verset 13 qui dit que Christ s'est fait malédiction pour nous afin que nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Vous avez aussi l'autorité sur les mauvaises pensées. Amen. Et vous avez une responsabilité sur les mauvaises pensées. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent cela. Ils pensent, vous savez, ne vous affolez pas lorsque vous recevez une mauvaise pensée. C'est une attaque comme les autres. Est-ce que vous me suivez? Si le diable vous injecte une pensée selon laquelle vous n'allez pas vous marier, il ne faut pas acquiescer et puis commencer à pleurer et commencer à s'affoler. parce que ça provoque aussi le même résultat. Est-ce que vous me suivez? Ou bien vous êtes marié, le diable vous attaque en vous disant, vous n'aurez pas d'enfant. Ou bien vous allez mourir pauvre, vous allez être pauvre, vous allez perdre votre travail. Quand quelqu'un accepte une pensée de ce genre-là, ça affecte son comportement. Quand quelqu'un est sûr qu'il va perdre son emploi, ça, il va se comporter dans l'entreprise comme s'il était déjà renvoyé. C'est pour ça que vous avez une responsabilité sur votre pensée. Christ a été crucifié à Golgotha. Golgotha signifie le lieu du crâne. Et le lieu du crâne, sous le crâne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le cerveau, qui est l'endroit où, qui nous donne la capacité de penser. Amen. Donc nous devons exercer de l'autorité sur notre pensée. Parce que la Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Si tu penses que tu es un perdant, tu vas avoir une vie d'échec. Si tu penses que tu n'as pas d'autorité, eh bien tu n'auras pas d'autorité. Tu ne peux pas empêcher l'ennemi de t'injecter des mauvaises pensées. Tu ne peux pas l'empêcher, comme tu ne peux pas l'empêcher l'ennemi de t'attaquer. Mais tu peux empêcher ces mauvaises pensées de prospérer dans ta vie. Alléluia. Tu peux empêcher ces mauvaises pensées-là de détériorer ta vie, d'affecter ton mariage, d'affecter tes affaires, d'affecter ton travail, d'affecter tes circonstances. Tu peux empêcher ces pensées de le faire. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Tous ces éléments que je vous donne ont pour but d'établir les fondements qui vous permettront de pouvoir prier et de pouvoir exercer ce qu'on appelle la prière de combat spirituel. La prière de combat, de pouvoir combattre dans vos prières. Donc sachez que lorsque vous allez prier, vous devez attaquer également toutes ces pensées négatives qui vous sont injectées. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5 nous dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Donc dans le combat spirituel, il est important d'attaquer les pensées qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu et les emmener à être en accord avec la parole de Dieu. Donc si vous pensez quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, il faut lier cette chose-là dans le nom de Jésus et délier le contraire. Philippiens chapitre 4 verset 8 également parle, vous pouvez juste noter. Vous avez aussi autorité sur la pauvreté. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 et chapitre 9 verset 8. Car Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Donc tout ce que Christ a obtenu à la croix, nous avons la responsabilité d'utiliser l'autorité qu'il nous a confiée pour pouvoir établir ces choses dans nos vies, y compris la santé. Il a pris nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc si tu ressens une maladie, tu dis, Satan, tu prends ta chose et tu vas avec ça en enfer. Alléluia. Au nom de Jésus, je refuse. Parce que tu as le droit d'accepter ou de refuser. Mais il y a des gens qui acceptent très facilement. Quand tu dis c'est ma maladie, il y en a même qui développent une intimité avec leur maladie, leur problème. C'est mon problème, c'est ma maladie, voilà ma situation. Vous voyez, il est important que vous utilisiez votre autorité dans le combat spirituel pour pouvoir lier ces choses-là. Dans la prière de combat, nous ouvrons des portes, comme je l'ai mentionné tantôt. Nous ouvrons les portes du salut. Actes chapitre 14, verset 27. Actes chapitre 14, verset 27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeuraient assez longtemps avec les disciples. Donc ils sont allés expliquer, ça c'est les apôtres, lorsqu'ils sont revenus de leur mission, ils disent que ils sont venus et ils ont raconté aux disciples comment est-ce qu'ils ont ouvert aux nations les portes de la foi. Alléluia. Dis, j'ouvre les portes de la foi. J'ouvre les portes du salut. Tu vois, quand tu rencontres quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, tu as la responsabilité d'ouvrir pour lui les portes du salut. Amen. Il peut tourner en rond. Tant que tu n'ouvres pas les portes du salut, il n'entrera pas. Parce que la porte est fermée pour lui. Si toi tu es entré, c'est parce que quelqu'un a ouvert pour toi la porte. Si moi je suis entré dans la foi, si je suis entré dans l'évangile, c'est parce que quelqu'un a ouvert pour moi la porte. Il m'a permis d'entrer. Toi également, tu as la responsabilité d'ouvrir la porte à d'autres personnes. Et j'ai la responsabilité d'ouvrir la porte à d'autres personnes. Si aujourd'hui j'expérimente des miracles dans la prière, je vois la puissance de Dieu se manifester lorsque je prie, lorsque je mène un combat spirituel, il est important pour moi, après avoir reçu ces révélations-là, d'ouvrir aussi aux autres les portes de cette dimension de prière. Alléluia. Parce que il y a des gens qui aiment fermer les portes. Et il y a des gens qui aiment les ouvrir. Il y a des personnes, lorsqu'ils achètent un livre et qu'ils ont fini de lire le livre et que le livre était très bon, ils prennent le livre et le cachent sous leur lit. Il ne faut surtout pas que quelqu'un d'autre lise ce livre-là, parce que sinon il va avoir les mêmes informations que moi. Et il y en a d'autres, dès qu'ils ont lu un bon livre, ils vont vous appeler. « Ah, je viens de lire un livre là, il était très bon, je te l'envoie. » Pourquoi? Parce qu'il veut que tu puisses, il veut t'ouvrir la porte de la bénédiction que lui, il a reçue. Alléluia. C'est deux attitudes différentes. Et je vais te dire quelque chose. Ne pense pas que lorsque tu fermes une porte à quelqu'un, tu es béni. C'est faux. Parce que quand tu fermes une porte à quelqu'un, Dieu t'enfermera 10 autres. Parce que Dieu ouvre les portes à ceux qui ouvrent les portes. Et il ferme les portes à ceux qui ferment les portes. Et il a dit, ce que tu veux qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Donc ne pense pas que tu vas fermer les portes aux autres et Dieu va t'ouvrir des portes. Est-ce que tu me suis? Quoi qu'il en soit, si Dieu veut ouvrir une porte dans sa vie, il va l'ouvrir. Si tu refuses d'ouvrir la porte, Dieu passera par quelqu'un d'autre. Parce que vous savez pourquoi? À partir du moment où Christ nous a donné les clés, qui a les clés? C'est nous. C'est l'homme qui a les clés. C'est pour ça que pour qu'un homme puisse entrer dans une porte, il faut que ce soit un autre homme qui lui ouvre la porte. Christ n'ouvrira pas la porte tout seul, en fait. Il ne le fera pas tout seul. Il va passer par un homme. De manière individuelle, il va passer par un homme. Il a choisi. Quand il a transmis, quand il a donné la clé à l'homme, il a choisi d'utiliser l'homme pour ouvrir la porte. Sinon, Corneille n'allait pas avoir besoin de Pierre. Et Paul n'allait pas avoir besoin qu'on lui impose les mains, compris pour lui. Est-ce que vous me suivez? Les gens allaient dans leur salon et tout d'un coup, ils allaient donner leur vie au Seigneur. Ils allaient aller prendre la Bible, prendre les passages, lire les passages, édifier. On n'allait pas avoir besoin d'un pasteur ou bien d'un enseignant ou d'un prophète pour nous enseigner, pour nous ouvrir les portes. Même Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il a eu besoin de Jean le Baptiste pour lui ouvrir la porte. Donc je vous explique, c'est un principe. On ouvre les portes. Et nous devons ouvrir les portes pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos enfants, pour nos amis. Nous devons ouvrir les portes du salut. Nous devons ouvrir les portes de la délivrance. Actes chapitre 12, toujours, versets 5 à 10. Ouvrir les portes de la délivrance. Actes chapitre 12, versets 5 à 10. La Bible dit ceci. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Il était en prison. Et l'église adressait des prières. Ce n'était pas des prières de requête. Mais c'était des prières de combat. Afin que les portes s'ouvrent. Et là maintenant, ce n'était pas des portes spirituelles. Mais c'était des portes physiques. Donc ta prière peut même ouvrir des portes physiques. Alléluia. Ta prière peut arrêter un accident. Ta prière peut faire sortir quelqu'un de prison. Alléluia. Que ce soit une prison spirituelle ou une prison physique. Et la Bible dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. C'est-à-dire, c'était une sécurité rapprochée. Il avait deux chaînes. Et il dormait entre deux soldats. Donc, pour s'assurer qu'il allait se présenter devant Hérode, il ne fallait pas que Pierre s'échappe. On lui a mis un soldat à gauche, un soldat à droite, et lui-même on l'a lié de deux chaînes. Et pendant ce temps, l'église était en train de prier. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Mais il avait au moins six personnes qui étaient affectées à sa surveillance rapprochée, sans oublier le fait qu'il était quand même enchaîné et emprisonné. Est-ce que vous suivez? Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Donc lui-même, il pensait que c'était un rêve. Et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avançaient, c'était devenu une porte automatique. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Donc Pierre s'est retrouvé comme ça, il était complètement libre. Pourquoi? Parce que des gens ont prié pour lui. Alléluia. Les portes de la prison se sont ouvertes. Lui qui était enchaîné de deux chaînes. Je suppose qu'il avait une chaîne aux pieds, une chaîne aux mains. Il dormait entre deux soldats. Il y avait deux gardes devant la porte de sa cellule. Il y avait des gardes aussi à l'entrée de la prison, à l'entrée du couloir, à l'entrée de la prison. L'ange est venu, il le tape sur le côté, lui dit, Pierre, lève-toi. Pierre se lève, ses chaînes tombent. Alléluia. C'est ça la puissance de la prière. Amen. La puissance de la prière. Tu sais, si tu pries pour quelqu'un et que tu lui ouvres les portes du salut, il ne saura même pas comment ça s'est passé. Il va se retrouver dans la maison de Dieu. Mais il faut que tu saches comment frapper. Le véritable problème, c'est que l'Église ne sait plus comment frapper. On s'est demandé seulement, mais on ne s'est pas cherché, on ne s'est pas frappé. Donc lorsqu'on arrive devant des portes qui sont fermées, on attend. Seigneur, viens ouvrir la porte. Seigneur, je t'en supplie, ouvre la porte. Oh Dieu de gloire, tu es merveilleux, je t'en prie Dieu. Oh Père Céleste, ouvre la porte. Mais il dit, mais je t'ai donné les clés. Oh Seigneur, ouvre la porte. Je t'ai donné les clés. Seigneur, ouvre la porte. Mais je t'ai donné les clés. Tu as les clés, alléluia. Et ce n'est pas lui qui va ouvrir la porte. C'est toi qui vas ouvrir la porte. Amen. Pendant que tu pries, ouvre les portes dans ta maison de l'abondance. Ouvre les portes de la prospérité. Ouvre les portes de la multiplication. Ouvre les portes de la paix, de la stabilité, de la force, de l'amour, de la puissance, de la grâce de Dieu. Alléluia. Ouvre les portes. Et ferme les portes de l'échec, ferme les portes de la division, ferme les portes. Il faut que tu exerces ton autorité. Et ton autorité dans le combat spirituel s'exerce lorsque tu lis et tu délis, tu ouvres et tu fermes, tu bloques et tu débloques. Alléluia. Tu dois également ouvrir les portes des opportunités et des percées, que ce soit dans le ministère ou bien dans les affaires. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9. Là, c'est Paul qui parle. Je vais lire à partir du verset 8. Il dit, « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande est d'un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Paul voulait emmener l'évangile partout où c'était possible. Et il est arrivé dans un endroit où il dit, à Éphèse, où il dit qu'une porte grande et efficace, d'un accès efficace, a été ouverte. Amen. Une porte, c'est une opportunité. Vous savez, même dans le monde, pour pouvoir entrer dans certains domaines, il faut qu'on vous ouvre les portes. Et c'est quelqu'un qui va vous ouvrir la porte. C'est un principe qui est universel. Vous voulez entrer dans le monde de la finance, il faut que quelqu'un vous ouvre les portes du monde de la finance. Vous voulez entrer dans le monde de la politique, il faut qu'un politicien vous ouvre les portes du monde de la politique. Vous voulez entrer dans l'immobilier, ça sera quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine, qui lui-même est dans le domaine, qui vous ouvrira les portes du monde de l'immobilier. Donc le monde est en fait constitué de portes. Même dans les affaires, vous voulez entrer, il y a des gens qui font les affaires, ils achètent et vendent, et sur ce qu'ils ont fait, dans un mois, ils peuvent avoir que 1000 euros de bénéfices. Il y a des gens qui passent un seul coup de fil pour acheter et pour vendre. En 2 minutes, ils ont fait plus d'1 million d'euros de bénéfices. Mais pour pouvoir entrer dans cette dimension d'affaires, il faut qu'on vous ouvre les portes. Parce que tout ce qui y a comme bénédiction, richesse, héritage, prospérité, tout est toujours protégé par une porte. Est-ce que vous me suivez? Qu'elle soit visible ou invisible. Quand vous avez quelque chose de précieux, vous n'allez pas le mettre comme ça au grand jour. Vous allez le mettre dans un endroit et vous allez fermer la porte et vous allez fermer à clé. Pourquoi? Mais c'est comme ça. Donc si quelqu'un veut pouvoir profiter de cette chose-là, il faut que vous lui ouvriez la porte. Amen. C'est pour ça que Dieu a pris un raccourci. Il a dit, moi je vais donner l'autorité à mes enfants. Donc je vais leur donner en même temps les clés du royaume. Et les clés du royaume, c'est comme un passe-partout. Ça t'ouvre toutes les portes que tu peux vouloir ouvrir. Alléluia. Toutes les portes, tu peux les ouvrir. C'est pour ça qu'il a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Quel que soit l'endroit où tu veux aller, tu frappes et l'on t'ouvrira. Tu veux entrer dans le monde de la finance, tu peux frapper et, on va t'ouvrir les portes du monde de la finance. Tu vas entrer, tu vas être béni, tu vas prospérer et tu vas gagner des gens du monde de la finance à Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que c'est une porte d'opportunité pour l'évangile, alléluia, et d'une grande efficacité. Parce que si aujourd'hui tu arrives à emmener 10 financiers à Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu qui est béni et qui va aller de l'avant. Amen. Et c'est valable dans n'importe quel monde. N'importe quel monde. Amen. Qui est protégé par une porte. Vous pourrez lire aussi 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Chapitre 12, verset 13. Lorsque tu combats dans la prière, tu dois pouvoir aussi établir des barrières et fermer des portes. Tu dois pouvoir établir des murs, tu dois pouvoir bâtir des murs. On se cache derrière, donc derrière lesquels on peut se cacher. Ça fait partie de notre alliance, hein, comme je l'ai dit, Genèse chapitre 15, verset 1. Hein, on peut lire ça, Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je dis, Abraham ne crains point, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Amen. Donc, dans le combat spirituel, il est important d'avoir ce qu'on appelle un bouclier. Pourquoi? Parce que le bouclier te protège des attaques de l'ennemi. Amen. Le bouclier est une protection spéciale. Et pour un enfant de Dieu, notre héritage, ce n'est pas d'avoir un bouclier physique, c'est d'avoir l'Éternel des armées comme notre bouclier. Alléluia. Dis, l'Éternel est mon bouclier. Amen. Regarde, prends Psaume, chapitre 3, verset 3. On va en lire plusieurs. Donc, une fois que tu l'as lu, tu gardes ta main sur Psaume. Psaume, chapitre 3, verset 3. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Alléluia. Tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Alléluia. Dis, Seigneur, tu es mon bouclier,
Seigneur, tu es mon bouclier.
Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Regarde dans Psaume 28, verset 7. Psaume 28, verset 7. Vois comment David, qui ne vivait pas dans le siècle dans lequel nous vivons, avait une maîtrise du combat spirituel. Il savait faire appel à Dieu. C'est-à-dire que quand tu pries, il faut utiliser les armes. C'est quand il s'agit de combat, quand on parle de combat, on parle d'armes. Amen. Et les armes du combat, il y a le bouclier qui te permet de te protéger et il y a l'épée de la parole qui te permet d'attaquer. Alléluia. Et tu dois utiliser ces choses-là. Et il y a les clés du royaume qui te permettent d'ouvrir et de fermer. Tu dois avoir une connaissance de ces choses et les utiliser. C'est bien d'avoir une clé, mais si tu ne l'utilises pas, elle va se rouiller dans ta main. Amen. Peut-être que c'est la clé d'un coffre dans lequel il y a des richesses incroyables. Mais tu vis dans des difficultés financières, tu as des problèmes pour joindre les deux bouts, alors que tu as la clé qui te permet d'avoir accès à quelque chose qui va régler tes problèmes financiers pour toute ta vie. Tu vois? Donc tu peux avoir l'autorité, mais si tu ne l'exerces pas, tu n'en mangeras pas les fruits. Psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Alléluia. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Psaume chapitre 33, verset 20. Notez-les. Psaume 33, verset 20. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Alléluia. Qui est ton bouclier? Qui est ton bouclier? Bon, si l'Éternel des armées est ton bouclier, qui peut t'atteindre? Qui peut te déstabiliser? Sauf si tu ranges ton bouclier quelque part. Et puis tu te promènes sans bouclier. Le diable a dit chic alors, aujourd'hui il n'a pas son bouclier. Verset 9, psaume 115. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Alléluia. Dis Seigneur, tu es mon secours et mon bouclier. Amen. Dieu est notre bouclier. Amen. Et nous avons donc la responsabilité d'utiliser ce bouclier, de revêtir ce bouclier. Chaque matin, lorsque tu te lèves, quand tu pries, et quand tu dois entrer dans une prière de combat, c'est même la première chose que tu dois faire. Revêtir ton bouclier. L'Éternel est mon bouclier. Il me secourt dans les moments difficiles. Alléluia. Déjà, tu établis le bouclier. Maintenant, tu dois prendre ta position d'autorité. Parce que Christ n'a pas donné l'autorité pour faire beau. Il t'a donné l'autorité pour que tu puisses l'utiliser. Amen. J'ai l'autorité sur la puissance, toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève contre moi, je la condamne. Je prends autorité au nom de Jésus. Et je décrète que les portes d'œuvre sont fermées au nom de Jésus. Et j'ouvre les portes de ceci. Amen. Je lis cela et je délie ceci. Amen. Je bloque cet esprit et je l'empêche de nuire dans ma maison, dans ma famille. Amen. C'est comme ça que tu pries. Quand on parle de prière de combat. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons voir d'autres sortes de prières. Nous allons voir la prière de la foi. Nous allons voir la prière de requête, la prière d'action de grâce. Mais toutes ces prières-là font appel à des stratégies complètement différentes les unes des autres. Mais quand tu fais une prière de combat, sache que tu as affaire au fait de lier, de délier, d'ouvrir, de fermer, de bloquer, de débloquer, alléluia, de prendre ta position d'autorité, de revêtir le bouclier, d'utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et il y a une autre chose aussi que tu dois faire. Et c'est par là qu'on va finir. Tu dois ériger des murs. Tu dois ériger des murs. Un homme peut ériger un mur. Regarde dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, mais moi je ne te comprends pas. La plupart des gens, lorsqu'ils reçoivent des révélations, ils veulent les garder pour eux-mêmes. Mais toi, tu es prompt à vouloir les enseigner. Pourquoi tu fais ça? Je dis, mais parce que plus je dis, plus je révèle les choses que Dieu me donne, plus j'en reçois. Amen. Actuellement, vous ne pouvez pas savoir, mais ma tête explose des révélations. Parce que j'ai eu à cœur de prendre ces révélations-là, de les diffuser dans le corps de Christ, par Internet, par des livres, par des CD, par des cassettes. Le peuple de Dieu est resté trop longtemps en captivité. Il doit être délivré. Amen. Et plus je révèle, plus Dieu me fait des révélations. Plus je révèle, plus Dieu me fait des révélations. Alléluia. Ne gardez pas les choses pour vous. Soyez prompt à les dispenser. Amen. Parce que c'est ça la loi de la bénédiction. Il donne la semence au semeur. Alléluia. Il donne la semence au semeur. Ézéchiel 22, verset 30. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je cherche un homme qui élève un mur, mais je n'en trouve pas. Est-ce que Dieu trouvera parmi nous un homme ou une femme qui élèvera un mur? Alléluia. Qui élèvera un mur. Qui élèvera même des murs. Alléluia. qui élèvera des murs, qui ouvrira des portes, qui fermera des portes. Parce que c'est ce qu'il s'attend, il s'attend à ça de nous. Il veut qu'on le fasse, qu'on exerce l'autorité du royaume. Alléluia. Ézéchiel chapitre 13, verset 1, c'est le dernier passage que nous allons lire. Nous lisons. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat. Amen. Vous voyez ce qu'il leur reproche? Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat. Donc lorsque tu combats dans la prière, il est important d'élever un mur. Amen. J'élève un mur de protection tout autour de ma maison au nom de Jésus. Et quand tu prononces la parole, sache que dans le monde spirituel, le mur effectivement est en train d'être élevé. De telle sorte que tu puisses tenir ferme dans le combat. Amen. Je revais les armes spirituelles, automatiquement tu les revais dans le monde spirituel. Alléluia. Il faut que tu aies cette maîtrise-là, cette connaissance de la prière de combat. Donc il leur reproche, il leur dit, vous n'avez pas entouré de mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent l'Éternel a dit et l'Éternel ne les a point envoyés. Ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites l'Éternel a dit et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Donc, l'Éternel n'aime pas. Il n'a pas dit que ces gens n'étaient pas des prophètes. Il n'a pas dit qu'ils n'étaient pas des prophètes. Ce sont des prophètes, mais qui prophétisent selon leur propre cœur et non selon ce que l'Éternel a dit. Vous me suivez? Aujourd'hui, il y a des gens qui prophétisent certaines choses concernant la France, concernant le monde. Et apparemment, ils ont fait leur choix politique et ils veulent que certains partis arrivent au pouvoir. Mais vous savez, en tant qu'homme de Dieu, nous devons savoir quelle est la volonté de Dieu et nous devons être capables d'ériger des murs contre ceux qui veulent aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est pour ça que dans les mois qui viennent, la France est en train d'entrer vraiment dans quelque chose d'important. Soit nous allons entrer dans une situation qui permettra à l'homosexualité de se répandre librement, aux couples homosexuels de se marier et d'adopter des enfants. Le fait de se marier, pour moi, ce n'est pas un problème. Mais c'est le fait d'adopter des enfants qui, moi, constitue un problème. Et le fait que, moi, mes enfants soient obligés de vivre avec l'homosexualité comme ça tous les jours. Ou bien des enfants qui, eux, sont éduqués dans un couple homosexuel. Vous voyez, c'est quelque part, c'est une atteinte même à notre liberté. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit pouvoir ériger un mur. Alléluia. Tout autour de la France, pour empêcher les esprits d'homosexualité, les esprits de Sodome et Gomorre de pouvoir entrer et de se manifester dans cette nation. Même s'ils ont commencé à se manifester, il faut ériger des murs. Un mur, c'est une barrière. Un mur, c'est une protection. Un mur, quand tu mets un mur quelque part, c'est en fait tu empêches la personne de pouvoir accéder à cet espace-là. C'est vrai qu'on n'a pas érigé des murs pour empêcher l'homosexualité d'avancer, mais nous pouvons empêcher, on peut ériger un mur pour empêcher l'homosexualité d'être légalisée dans cette nation. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et il est important, lorsque nous combattons dans la prière, d'ériger des murs aussi pour la nation. Le Seigneur dit, je cherche un homme qui érigera un mur. Et je n'en trouve pas. Il faut ériger des murs. Alléluia. Ériger des murs. pouvoir te substituer à la jeunesse, ériger un mur. Te substituer aux chrétiens, ériger un mur. Daniel, lorsqu'il priait, il priait en tant que Daniel, mais il priait également pour ses pères. Alléluia. Pour ses frères et pour ses sœurs. Amen. On va se lever dans la présence de Dieu. On va prier le Seigneur. Demande-lui d'ouvrir ton esprit, d'ouvrir ton intelligence, afin que les révélations concernant le combat puissent être établies définitivement dans ta vie et que rien ni personne ne vienne les enlever ou ne vienne les voler. Prie le Seigneur, ton Dieu. Prie ton Dieu.
Alléluia. Alléluia.
Prie ton Dieu. Seigneur, équipe-moi et rends-moi capable de combattre par la prière, Seigneur. Donne-moi le discernement, donne-moi la force afin que je sois efficace dans la prière.
Alléluia.
Et que lorsque je frappe, et que lorsque je frappe, les portes s'ouvrent. Répète après moi, répète après moi, répète après moi, répète après moi. Seigneur, tu es mon bouclier et ma force. Restaure mon autorité. Restaure mon autorité. Je suis conscient, Seigneur, que tu m'as donné les clés. Afin que j'ouvre et que je ferme, que je lis et que je délie. Je lis aujourd'hui tout esprit de lourdeur, de paresse. Je délie un esprit de force, de vigueur et de persévérance. Je lis aujourd'hui sur ma vie, tout esprit d'échec, tout esprit de négligence, et je délie l'esprit de la victoire et de l'excellence. Que les portes du royaume s'ouvrent sur ma vie, sur mes finances, sur mon travail, sur ma famille, sur ma nation. Que les portes des ténèbres soient fermées et bloquées. Au nom de Jésus, j'érige un mur de protection, une barrière de protection autour de ma vie, de ma maison, de mes affaires, de mes finances, de mon mariage, de mon travail. Et j'érige un mur
de protection sur la francophonie, afin que les esprits de perversion, les esprits de perversion restent à l'extérieur. Au nom de Jésus, je déclare que les années qui viennent sont des années d'abondance, sont des années de visitation, sont des années de bénédiction, de multiplication. Au nom de Jésus, je reçois les bénédictions d'Abraham. Je reçois les bénédictions d'Abraham. Lève les mains vers le Seigneur, garde les yeux fermés. Je veux maintenant prier pour toi. Seigneur, la Bible déclare que tu t'es fait malédiction, car il est écrit, quiconque est pendu au bois est maudit. Mais tu l'as fait, Seigneur, afin que nous puissions recevoir les bénédictions d'Abraham. Seigneur, ce sont ces bénédictions que je réclame pour toi aujourd'hui, que je réclame pour ton peuple aujourd'hui. Ce sont ces bénédictions, Seigneur, que je réclame pour chaque personne ici aujourd'hui. Toi qui m'entends, c'est pour toi que je réclame ces bénédictions, car ces bénédictions sont à toi. Merci Seigneur, parce qu'elles sont répandues dans cette assemblée. Bénédiction de santé, bénédiction de paix, bénédiction de multiplication, de prospérité au nom de Jésus. Bénédiction d'autorité et de puissance au nom de Jésus. Que la grâce et la gloire de Dieu surabondent dans leur vie. Et que tous ceux qui les maudissent soient maudits au nom de Jésus. Et tous ceux qui les bénissent soient bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu pour ce que tu as accompli dans leur vie. Au nom de Jésus Père, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Vous êtes bénis, vous pouvez acclamer le Seigneur. Car il est merveilleux, vous pouvez pousser les cris de joie pour la gloire de Dieu.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.